la yacht. Voilà, j'habite à Annemasse. Effectivement, je travaille là depuis une année et demie sur Genève en tant que pasteur associé à cette œuvre, mais j'étais avant pasteur stagiaire sur Annemasse. Donc, ça fait quelques années que j'habite en Haute-Savoie avec joie. Et bon, je suis très heureux de venir encore aujourd'hui apporter la parole. J'ai déjà eu l'occasion, 4 ans, avec Alain Ray de venir. Et puis régulièrement, si je vois vos jeunes par les interjeunesses, par les camps de jeunesse, et on a l'occasion eh bien, de partager des temps autour de la parole de Dieu. Et c'est toujours un privilège que de pouvoir ouvrir cette parole. Alors, ma femme et mes enfants n'ont pas pu venir aujourd'hui, mais je suis là et avec joie, on aura l'occasion de se retrouver. D'échanger. J'aimerais qu'on puisse ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Samuel. 1 Samuel au chapitre 30. Et puis je vais lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 10 et du verset 21 au verset 25. 1 Samuel chapitre 30. Lorsque David arriva le troisième jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici elle était brûlée, et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été emmenées, Achinoam de Jizréel et Abigaël de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Achimélec, « Apporte-moi l'éphod. » Abiathar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, « Poursuivrai-je ses troupes? L'atteindrai-je ? » L'Éternel lui répondit, « Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. » Et David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bézor, où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'étaient arrêtés, trop fatigués pour passer le torrent de Bézor. Et on va aller au verset 21. Donc David va, il combat, il est victorieux, il délivre tous les gens qui lui appartiennent. Aucun d'eux n'a péri dans cet incident. Les Amalécites ont pris la fuite, quelques-uns des Amalécites du moins ont pris la fuite, et David eh bien, s'en revient avec tout le butin, tout ce qu'ils avaient pris de chez lui, mais aussi ce qu'ils avaient laissé en prenant la suite. Il s'en revient, il est sur le chemin du retour avec cette grande foule, cette foule nombreuse, hein, sa famille et tous ceux qui étaient dans ce village qui le suivaient. Et on lit au verset 21, « David arriva auprès des 200 hommes qui avaient été trop fatigués pour le suivre et qu'on avait laissé au torrent de Bézor. Ils s'avancèrent à la rencontre de David et du peuple qui était avec lui. David s'approcha d'eux et leur demanda comment ils se trouvaient. Tous les hommes, méchants et vils parmi les gens qui étaient allés avec David, prirent la parole et dirent, « Puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, nous ne leur donnerons rien du butin que nous avons sauvé, sinon à chacun sa femme et ses enfants, qu'ils les emmènent et qu'ils s'en aillent. » Mais David dit, « N'agissez pas ainsi, mes frères, au sujet de ce que l'Éternel nous a donné, car il nous a gardés, il a livré entre nos mains la troupe qui était venue contre nous, et qui vous écouterait dans cette affaire ? La part doit être la même pour celui qui est descendu sur le champ de bataille et pour celui qui est resté près des bagages. Ensemble, ils partageront. » Il en fut ainsi dès ce jour et dans la suite, il en a fait de cela jusqu'à ce jour une loi et une coutume en Israël. Un temps de partage. Ensemble, ils partageront. Il y a dans ce récit, il y a dans ce texte, dans cette narration, une belle image de ce qui est la future Église qui allait venir. Ensemble, ils partageront. Et j'aime ce récit, on va essayer d'extrapoler, d'étudier, pour comprendre de quelle manière peut-être il nous impacte aujourd'hui, où nous ne sommes pas dans ce même contexte, dans ce même climat, dans cette même géopolitique, et pourtant il y a des éléments qui sont source de secours, de réconfort au travers de ce texte, et peut-être particulièrement pour ceux qui sont dans un temps de difficulté. Quand on lit le chapitre 29, on réalise que David est rejeté et renvoyé. Effectivement, David, dans ce temps d'errance, pourchassé par le roi Saül, et puis dans ce temps de vagabondage, là, il va associer autour de lui des hommes qui, eh bien, l'ont suivi pour différentes raisons. Et puis, il va s'associer à un Philistin nommé Achish, et il va, eh bien, gagner la confiance de cet homme. Mais voici que les Philistins vont partir en guerre contre Israël, contre le roi Saül. Et David, donc associé à Achish, va être dans l'arrière-garde de ces troupes qui vont aller contre Israël. Et puis, David était prêt à se battre pour Achish, même contre Israël, son peuple, par redevabilité, par engagement envers cet homme. Simplement, les princes des Philistins se réunissent et disent « C'est quand même dangereux d'avoir un faux frère avec nous. » Achish avait confiance en David, mais les autres n'avaient pas confiance. Et donc, ils vont demander à Achish de renvoyer David. Et Achish va obéir. Dieu était dans cette affaire. Dieu était dans cette affaire parce que, alors que David avait l'occasion de lever la main contre Saül plusieurs fois dans le désert, eh bien, il va chaque fois en être empêché, il va se refuser de le faire pour ne pas lever la main contre le oint de l'Éternel. Mais laissez Dieu faire en ce temps. Et dans cette situation, les Philistins vont effectivement détruire Saül, détruire les enfants de Saül, détruire et tuer Jonathan, le fils de Saül, le meilleur ami, celui qui était le meilleur ami de David, plus qu'un frère, nous dit la parole de Dieu. Et imaginez-vous que David soit entraîné dans ce combat, peut-être aurait-il dû faire le choix d'affronter Jonathan, d'affronter Saül. Lui qui s'était refusé de tuer le oint de l'Éternel, là il aurait peut-être dû être confronté à cette situation. Et Dieu n'a pas permis. Dieu a posé sa main. Mais toutefois, David, c'est une douleur qu'il va vivre. C'est une humiliation sur l'instant. David et son armée sont rejetés, sont renvoyés, sont considérés comme des traîtres ou des possibles traîtres, sont mis à l'écart du conflit. David, il est soumis à Dieu. Mais là, il va aussi se soumettre, entre guillemets, à cette autorité, cette mise à l'écart. Et en rentrant, après 3 journées de marche, ils arrivent dans leur ville. Et là, quel grand désarroi. Quelle grande tristesse. Leur ville est détruite. c'est une chose, mais leur famille a disparu. Leur bien a disparu. Leur troupeau a disparu. Certainement qu'ils sont revenus fatigués de tout ce périple, honteux de ce qu'ils avaient vécu, et ne sachant pas quoi dire certainement à leur famille. Et voici que leurs familles ne sont plus là. Des biens, ça peut se reconstruire. Une ville, ça peut se rebâtir. Mais une famille. Nous avons été témoins de ces incidents qui se sont passés dans l'Aude avec ces inondations. Et combien on dit, c'est vrai, nos biens sont abîmés, les assurances mettront peut-être du temps à rembourser. Mais ceux qui ont perdu la vie est perdue. Aucune assurance ne peut venir combler. Toutefois, dans leur tristesse, dans leur désarroi, eh bien, il n'y a là pas la présence de mort, de cadavre. Alors ils réalisent, ils comprennent que leurs biens et leurs familles ont été enlevés. Mais au travers de ça, eh bien, il y a plus qui est touché. C'est leur dignité, c'est leur responsabilité. Ils sont atteints dans ce qui fait leur dignité. Ils ont laissé leur famille pour aller combattre pour l'Éternel. Et revenant, leur famille a été enlevée. Si leur famille a été enlevée, c'est qu'ils n'étaient pas là. Sinon, jamais ils auraient laissé leur famille être emmenée. Les Amalécites n'auraient pas attaqué ce territoire avec 600 soldats vaillants. Voici que par leur absence, en leur absence, eh bien, leur famille est enlevée. Il y a comme là une attaque à leur dignité, à leur responsabilité, à la force qu'ils représentent. Quand on est face à une situation, on a raison de se poser la question, situation douloureuse, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire? Ou qu'est-ce que je n'ai pas bien fait? Et on se remet en question, et quelquefois Dieu permet aussi les épreuves pour la remise en question. Hein. La Bible ne dit-elle pas « Au jour du bonheur, réjouis-toi, au jour du malheur, réfléchis. » Et là, ils réfléchissent. Et ils se rendent compte que peut-être ils ont loupé quelque chose. Et pourtant, Dieu va veiller sur eux, et on ne peut pas dire qu'ils aient désobéi à la voix de l'Éternel. Ils perdent aussi leur courage. Ils perdent la joie. Ils perdent la paix. Et ils se mettent à pleurer, à déposer, à exprimer là toute la douleur au fond de leur cœur, jusqu'à ce qu'ils n'aient même plus la force de pleurer. Mes frères et sœurs, on peut être des grands gaillards, des bonhommes, des vrais, et pleurer. Ce n'est pas péché. Et ce n'est pas mal vu aux yeux de l'Éternel. Et ce n'est pas un aveu de faiblesse que de pleurer. Bien au contraire, c'est l'expression de ces émotions dont Dieu nous a habités. Dieu nous a remplis d'émotions, Dieu nous a remplis de ressentiments, d'expressions, et ces émotions sont là comme un indicateur dans notre vie, sont là pour nous conduire, nous donner une information. Sinon, Dieu n'aurait jamais prévu les yeux pour pleurer, n'aurait jamais prévu que le corps soit capable de déverser de l'eau au travers des yeux. C'est un liquide très particulier. Il y a des glandes qui sécrètent express liquide. Dieu a prévu aussi nos yeux pour pleurer. Dieu a prévu notre cœur pour pouvoir exprimer au travers de nous des émotions. Et ces émotions, il faut arriver à les exprimer, à les manifester et quelquefois se tenir devant Dieu et pleurer. Parce qu'on se sent atteint par une difficulté personnelle, mais aussi parce qu'on voit notre frère et notre sœur qui peut aussi passer par la difficulté. Jésus a eu de la compassion pour ce peuple qui se meurt. Dans Matthieu 9, Il nous est même dit qu'il fut ému de compassion pour cette foule parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Les émotions que Jésus a vécues l'ont conduit dans son intercession et dans son projet de sauver ce peuple qui était languissant et abattu comme des brebis qui n'ont point de berger. Ils ont pleuré. Le chrétien qui peut passer par un temps de difficulté. Et la Bible nous dit de pleurer avec celui qui pleure. Et non pas d'accuser celui qui pleure, d'avoir perdu la joie de Dieu. C'est facile de dire, réjouis-toi dans le Seigneur. Sois toujours joyeux. C'est une chose que d'avoir la joie du salut, mais c'était une autre chose que de rigoler sans cesse. Je peux avoir la joie et la conviction profonde d'être sauvé, d'être racheté par Dieu, tout en pleurant face à une situation que je traverse. Ce n'est pas opposé, ça ne se situe juste pas au même niveau. La joie du Seigneur, c'est une assurance quant à l'esprit, si j'ose dire, à l'espérance qui se trouve en Jésus, alors que les pleurs vont être la manifestation d'une émotion de tristesse, quelque chose qui vient percuter mon cœur. La joie, c'est pas toujours se marrer. La joie, c'est une assurance qui est bien plus profonde que cela. Et la paix qui se trouve en Christ, c'est quelque chose à découvrir, à redécouvrir, à entretenir, à chercher. Ces hommes et ces mais ils ont perdu cette espérance, ils ont perdu cette joie, ils sont atteints par la douleur. Et à tel point qu'ils vont même perdre l'unité, la cohésion qui est la leur. Ils vont devoir trouver un responsable. Et ce responsable, il est tout désigné. S'ils sont partis, c'est parce qu'ils ont suivi David. Donc c'est forcément David. Et c'est facile. On va l'attraper, on va le lapider. Ça ne réglera pas le problème, mais au moins ça évacuera la colère. Ou du moins, c'est l'apparence. Ils avaient de l'amertume dans l'âme. Chacun à cause de son fils, de sa fille. Et donc ils vont déverser cette amertume, cette violence, cet amour qu'ils avaient pour David va se changer en haine pour la destruction. On sait que c'est des sentiments qui peuvent remonter dans le cœur suite à une telle difficulté, une telle injustice. Que là où on avait de l'amour, eh bien la haine prend place. Combien dans des foyers où il y avait un amour sincère, on voit qu'au fur et à mesure des années, cet amour disparaît et quelquefois c'est la haine qui prend place. Quelle violence dans des conflits familiaux. Quelle violence dans des procédures de divorce, de séparation. Quelle amertume qui est là. Et quelle est la clé, quelle est la possibilité? Eh bien, c'est ce que David va faire. Il nous est dit à la fin du verset 6, « Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. » David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. David, qui était le leader, qui était le conducteur, qui aurait pu se défendre, qui aurait pu menacer la foule, qui aurait pu, eh bien, réagir violemment. David va non pas répondre à cette violence à son égard, mais il va lui trouver la solution qui a été la sienne tout au travers de ses années de périple. Il va revenir vers l'Éternel, s'appuyer vers l'Éternel, son Dieu. Quand est-ce, mon frère, ma sœur, plus j'ai la liberté d'être peut-être plus, d'être un petit peu insistant parce que je ne vous connais pas, mais quand est-ce, mon frère, ma sœur, que tu t'es retrouvé la dernière fois avec l'Éternel, ton Dieu, pour lui parler non pas des autres, non pas des situations en bénissant un frère ou en priant pour une situation, mais pour lui parler de toi, de ce qui se passait en toi, de ce qui, eh bien, réagissait en toi, de peut-être cette colère qui était là, ou cette amertume qui était là, ou cette violence qui était là, ou cette incompréhension qui était là. Crois-tu que Dieu est capable d'entendre les plus profondes pensées qui sont là dans ton cœur, que peut-être tu n'oses même pas t'avouer à toi-même? Dieu les connaît, oui. Mais toi, les as-tu déposés devant Dieu? De quelle manière on peut imaginer la prière de David? De quelle manière s'est-il adressé là à l'Éternel? Seigneur, bénis-les. Amen. Seigneur, je veux prier pour mes ennemis. David avait la même douleur dans son cœur. Lui aussi n'avait plus la force de pleurer à cause de ces deux femmes qui venaient d'être emmenées. Lui aussi passait par la même difficulté et lui a certainement ouvert son cœur déjà pour lui-même devant Dieu. En disant, mais je ne comprends pas, je ne sais pas, je ne vois pas ce qui m'arrive. On me chasse du champ de bataille, pourtant j'avais rien fait de mal. On m'exclut et voilà qu'au retour, je perds tout. Je perds tout, je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus ce qui m'arrive. J'ai besoin de toi. Si le peuple n'avait plus confiance en David, lui certainement aussi avait un déficit de confiance par rapport à lui-même. Il y a des temps où on peut passer par un questionnement tellement profond qu'on se fait même plus confiance à soi-même. Nous qui pensions être capables de faire tellement de choses, on a l'impression que tout nous glisse entre les mains, que tout ce qu'on touche, ça se casse. Que tout ce qu'on fait, ça ne fait qu'empirer la situation. Que toutes nos prières même ne sont pas entendues. Mais David va continuer à se tenir devant l'Éternel. Il va prendre courage devant l'Éternel. Vous savez, la prière, c'est d'abord parler de soi à Dieu. Placer devant Dieu ce qui nous habite, nous. Non pas pour expliquer à Dieu qui on est, il le sait déjà, mais peut-être pour nous mettre en évidence à nous-mêmes, dans notre compréhension, ce qui se passe en nous et permettre au travers de cela à ce que la vie de Dieu vienne changer notre situation, à ce que l'Esprit de Dieu vienne mettre en lumière ce qui se passe en nous. Parce que tant que c'est caché au plus profond de notre cœur, il ne peut pas y avoir le secours de Dieu. Mais lorsque c'est déposé, lorsque c'est mis à sa lumière peut traiter la situation. Il s'appuie sur l'Éternel. Il s'appuie sur l'Éternel. Et après ce tête-à-tête, bien voilà que l'œuvre va pouvoir commencer. L'œuvre de secours va pouvoir commencer. Dans le psaume 34, il est dit, verset 4, « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » J'ai pris conscience des frayeurs qui étaient en moi. Je les ai placées devant l'Éternel et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne verset 5, « Vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. » Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. David va crier, va déchirer son cœur, va ouvrir, va exprimer, va se mettre à nu devant Dieu. Et son âme va reprendre courage. Alors, il sort, il dit au sacrificateur, « Apporte-moi l'éphode. » Et avec cet éphode, il va consulter cette fois Dieu, non pas pour lui, mais pour la suite, pour l'avenir, pour le travail à faire. Et il va poser la question, mais poursuivrai-je? Est-ce que j'atteindrai? Est-ce que tu délivreras? Et Dieu va faire de lui un homme qui va se mettre en marche, non pas dans le parti politique, mais dans la position de la foi. En marche pour reprendre la victoire. Dans Romains 8, connaissez ce passage où il est dit au verset 31, « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? » Je vous laisserai lire la suite à la maison, mais on se rend compte que rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Si, une chose peut nous séparer, nous-mêmes. On peut décider, on peut s'éloigner, on peut laisser peut-être la colère, l'amertume, le non-pardon nous séparer de l'amour de Christ. Mais sinon, rien d'extérieur, même la mort, ne peuvent nous séparer de l'amour de Christ. Avant d'entrer dans cette victoire de Dieu, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? David a besoin de réaliser que Dieu est avec lui, de retrouver cet amour, de retrouver cette relation, cette intimité avec Dieu. Et c'est après cette intimité avec Dieu d'une manière personnelle qu'il va pouvoir entrer dans cette conquête pour tout le peuple. David va partir. Ses 600 hommes vont partir. Lui qui était vu comme un non-leader, comme incapable de prendre la suite du peuple, parce que là il consulte l'Éternel, parce qu'il a la bonne attitude, alors le peuple lui refait confiance. Et il emmène ses combattants. Simplement, ces combattants, eh bien, ils étaient à bout de force. Et sur ces 600, il y en a 200 qui s'arrêtent. 200. Et puis David va avec les 400 et il remporte la victoire. On a lu la suite au verset 21 de ce retour de David après cette victoire. Et là, il y a encore une nouvelle situation qui va se manifester. Un nouveau cas d'école, mais qui aurait pu devenir un cas problématique pour ce peuple. Ils sont dans une joie de la victoire, mais ils ont comme la comparaison qui règne en eux. Et la comparaison, eh bien, c'est la source de bien des tourments. David arrive vers ses 200, verset 21. Ceux qui avaient été fatigués pour le suivre, et il va leur poser la question. Il leur demanda comment ils se trouvaient. C'est David qui a combattu, c'est David qui a remporté la victoire, c'est David qui s'est surpassé, et c'est David qui va aller demander à ceux qui se sont reposés tranquillement, comment vous allez? Waouh! Quelle sollicitude, quel amour manifesté. C'est pas eux qui ont vu David de loin et qui ont couru, ça va, ça va. C'est lui qui est allé les voir. Mais voici que parmi ce peuple, parmi ces combattants, il y a aussi des hommes vils et méchants qui veulent ressentir une forme d'injustice. Dieu n'a-t-il pas dit au travers de la bouche de Jérémie, le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant? Qui peut le connaître? Le cœur de l'homme, tortueux. Alors David doit prendre position vis-à-vis de ses adversaires. Ne réagissez pas ainsi, mes frères, au sujet de ce que l'Éternel nous a donné. C'est pas vous, les gars, qui avez remporté la victoire. C'est Dieu qui l'a remportée. C'est une grâce de Dieu. C'est un privilège de Dieu. Il vous a redonné toute votre famille, tous vos biens et même davantage. Au travers de cette situation, vous ressortez vainqueur, grandi. Le nom de Dieu a été glorifié. Alors, ne faites pas du sujet de cette victoire une gloire personnelle. Ensemble, nous partagerons. On retrouve cette situation plusieurs fois. Déjà avec Moïse dans Nombre 31, Moïse demande à partager le butin entre les combattants qui sont allés avec l'armée et toute l'assemblée d'Israël. Et puis dans 1 Samuel 25, verset 13, on retrouve aussi déjà David qui va partager le butin avec les 200 qui sont restés près des bagages et les 400 qui sont allés pour avoir le combat, enfin, qui sont allés au combat pour avoir le secours. Est-ce que c'était les mêmes 200? Vraisemblablement, un certain nombre, qui ne vont pas avoir entré dans ce combat, mais qui vont garder les bagages. David va effectuer ici le partage. Le partage est l'égalité dans ce partage. Vous savez, dans Matthieu 20, il y a cette parabole si particulière de Jésus avec les ouvriers de la première et de la dernière heure. Et ces ouvriers de la dernière heure qui reçoivent en premier le salaire, qui est le même que les ouvriers de la première heure. Et là, il y a encore injustice dans le cœur des ouvriers de la première heure en disant, mais ils ont travaillé qu'une heure et ils ont le même salaire que nous. Et le maître répond, eh bien, mais est-ce que vous n'avez pas reçu le salaire qu'on avait convenu ensemble? Si, alors, c'est quoi votre problème? Si je donne autant ou plus à ceux qui n'ont bossé qu'une heure, enfin autant que vous qui avez bossé 12 heures. C'est encore la comparaison qui vient. Chacun de nous a reçu de Dieu quelque chose de différent et de complémentaire. Certains sont faits pour garder les bagages et ils vont le faire fidèlement. Ils vont prendre soin parce qu'ils étaient fatigués, parce qu'ils étaient découragés. David reconnaît que leur rythme n'est pas le même que pour les autres. Alors il va leur proposer de s'arrêter, de prendre le temps. Peut-être de se tenir dans la prière, tiens, pendant que les autres iraient au combat. Peut-être de se tenir là dans la réflexion, dans le soutien, pendant que les autres seraient dans le combat. Vous savez, quand on fait l'évangélisation, quand on travaille sur l'écolo, quand on est en frontal, dans le combat, dans une forme de combat, et qu'on a derrière une équipe de prière, des intercesseurs qui se tiennent dans la prière, ça change tout. Ça change tout. Et pour moi, c'est bien plus facile d'aller au combat que de me tenir dans la prière pendant que les autres y sont. Parce que quand je suis au combat, j'ai l'impression de faire et je vois le résultat de ce que ça produit immédiatement. Mais quand je suis dans l'intercession pour ceux qui sont au combat, j'ai l'impression de passer à côté. J'ai l'impression de perdre mon temps. J'ai l'impression de ne pas être efficace. Alors je me réjouis du fruit produit par la suite. Mais c'est plus difficile pour moi que d'être dans le combat directement. Et pourtant, je remercie et je n'arrête pas de faire le retour à ceux qui se tiennent dans l'intercession. Parce que sans eux, le résultat serait complètement différent. Quand je vais en colo, quand on a les projets, j'ai des intercesseurs dans l'équipe. Je leur donne la liste des prénoms des ados dont j'aurai la responsabilité et la charge spirituelle. Et je sais, je leur fais le retour. Et quelquefois, durant la colo, je leur envoie un email en disant « faut prier pour ça, pour ça, pour ça ». Et merci Seigneur pour ces hommes et ces femmes qui se tiennent dans la prière. Et on pourrait dire mais excusez-moi, ils sont fatigués là, ils sont laissés de côté, ils ne servent pas à grand-chose. Mais c'est tout le contraire. C'est parce qu'ils sont là qu'il y a la victoire. C'est parce qu'ils sont là qu'il y a des conquêtes qui sont faites. Et David, il a cette compréhension. Et il partage cette bénédiction avec l'ensemble de son armée, ceux qui sont restés sur le côté comme ceux qui ont combattu. Ne nous comparons pas. Combien de frustration pour ceux et celles qui étaient en avant combattants et qui ne peuvent plus le faire à cause de la santé ou à cause d'autres difficultés. Mais ne sois pas frustré, mon frère, ma sœur, si l'âge ne te permet plus de faire comme tu faisais avant. Mais découvre peut-être comme Dieu veut t'utiliser maintenant avec ce que tu es. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toute chose. Il y a des saisons dans la vie. Mais ce n'est pas parce que tu es à la retraite ou que tu es malade que tu es mis de côté dans l'œuvre de Dieu. Bien au contraire, tu peux entrer pleinement peut-être dans une nouvelle forme de service, mais tout aussi agréable et tout aussi indispensable pour le bien de son œuvre. Pierre va dire dans 1 Pierre 4, verset 10, « Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Qu'as-tu reçu comme don? Et qu'est-ce que tu es prêt à mettre au service des autres, de l'Église, au service de ton prochain, au service de celui qui est dans la difficulté? Bon, ici, vous n'êtes pas concerné parce que vous avez un super pasteur. Mais moi, je dis, je ne suis pas un super pasteur. Je ne peux pas être présent partout, je ne peux pas tout faire. Je ne peux pas m'occuper de visiter les malades, de contacter les personnes âgées, de nourrir à la banque alimentaire ceux qui ont le besoin, de développer l'évangélisation, de travailler parmi la jeunesse, de fortifier les enfants, de gérer l'intercession, de gérer l'enseignement des disciples, la formation des leaders pour la suite. De m'occuper de la sono parce que le frère à la sono, il n'est pas tout à fait bon. Et puis de préparer les projections parce que ce n'est pas tout à fait comme je veux. Et puis je vais donner aussi des cours de piano au pianiste, même si je ne sais pas jouer au piano. Le super pasteur qui s'occupe de tout, qui gère tout, qui fait tout. Non, nous sommes une église, une assemblée locale, mais l'église de Jésus-Christ. Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que les pasteurs donnent le meilleur aux autres. Non, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu, à la mesure de ce qu'il a reçu. Dans Romains 12, verset 6, il nous est dit, « Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. » Tiens, l'enseignant, ce n'est pas le ministère, là. « Que celui qui exhorte à l'exhortation. » Tiens, une autre forme. « Que celui qui donne le fasse avec libéralité. » Merci, Seigneur, pour ceux qui donnent et qui le font avec libéralité. « Que celui qui préside le fasse avec zèle. » Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Et la liste n'est pas exhaustive. Des services et des dons de Dieu. La préoccupation de David, ça va être de partager. Que tout le peuple soit au bénéfice de cette victoire, de cette gloire de Jésus. Lorsque nous sommes assemblés, le dimanche ou à d'autres moments de la semaine, c'est pour que nous puissions partager ensemble et nous réjouir ensemble de l'œuvre de Dieu. Partager nos peines et nos fardeaux, mais partager aussi nos joies, nos actions de grâce, notre reconnaissance. Qu'est-ce qu'on a du mal, excusez-moi, en France, avec la culture de la reconnaissance et de l'action de grâce? On est les champions du monde de la réclamation, mais on est très mauvais dans l'action de grâce et dans la reconnaissance. Quand vous voyez les Américains, eux, c'est tout le contraire, hein. tout est amazing, it's beautiful, it's perfect, voilà. Ils se congratulent de plein de choses extravagantes. Ils sont dans un émerveillement permanent. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas apporter un peu d'émerveillement dans notre foi? Est-ce qu'on ne pourrait pas un peu se réjouir du partage du butin? Est-ce qu'on ne pourrait pas un peu avoir de la miséricorde dans notre action, de l'action de grâce, du partage, des notions de partage pour être reconnaissant envers Dieu et qu'aucun ne manque? Ces hommes vils et méchants voulaient tout garder pour eux. Ah, on veut bien quand même rendre leurs femmes et leurs enfants, mais le troupeau, leurs biens, on garde, on garde. Et à quoi ça sert? Avoir des actions de grâce. Vous savez, comme ça encourage d'avoir des témoignages, ce que Jésus fait. Et non pas forcément uniquement les guérisons merveilleuses et miraculeuses, mais de quelle manière Dieu a répondu à un travail, de quelle manière Dieu a secouru mon enfant qui avait des difficultés à l'école, de quelle manière Dieu a pourvu à une situation, de quelle manière Dieu a répondu, combien on a de sujets de prière pour lesquels on prie, et on a l'impression qu'il n'y a aucune réponse jamais, parce qu'on n'a pas le retour des réponses, et pourtant Dieu fait. Un sujet de prière, un témoignage de réponse. On devrait travailler à la culture du témoignage. Alors, je ne sais pas comment ça se passe ici, mais à l'église à Genève, waouh, c'est difficile. Waouh, c'est difficile. On a des petits, pour l'intercession, on a des petites feuilles de prière avec sujet, pour la santé, pour la guérison, autre sujet, autre besoin. Mais tout en haut, j'ai mis une case remerciement. Et puis, on affiche les sujets pour pouvoir prier. Mais ce n'est pas souvent qu'il y a des remerciements. Et pourtant, Dieu agit. Jésus répond. Soyons fidèles dans ce que Dieu nous demande. Jésus va parler, ça va être mon mot de conclusion, d'un serviteur, le maître qui part dans Matthieu 24, et il établit un serviteur sur sa maison. Ce serviteur, il n'a pas grand-chose à faire, excusez-moi, si ce n'est de garder la maison, de veiller sur la maison et de guetter le retour du maître. Mais tout d'un coup, le maître revient. Et un de ses serviteurs disposés a complètement oublié le maître et la responsabilité. Par contre, l'autre serviteur, il se tient, il accueille son maître, il se met au service. Et le texte nous dit que le maître va aussi se mettre au service du serviteur. Il y a une confiance, il y a une délégation, il y a une responsabilité confiée à l'enfant de Dieu. Jésus n'est plus là physiquement au milieu de nous. Mais il a fait une délégation d'autorité, une délégation de responsabilité à son Église, à chacun d'entre nous. La preuve, il met son esprit dans nos vies. Il met le dépôt du Saint-Esprit. Mais de ce dépôt de l'Esprit, de ce dépôt de ses dons, nous aurons à rendre des comptes. Chacun pour sa part de ce qu'on a mis en action. Certains ont beaucoup reçu, d'autres moins, d'autres très peu. Mais quand même, le Maître demande à chacun de rendre des comptes. Souvent, je prends cette image en disant, nous ne sommes pas propriétaires de notre vie, nous sommes locataires. Et un jour, il faudra rendre le bail. Quelle manière j'ai géré ma vie? Quelle manière j'ai pris soin de l'appartement de ma vie? Est-ce que j'ai fait des trous dans tous les murs? Est-ce que j'ai laissé la plomberie se dégrader à faire des inondations? Est-ce que, j'ai jamais aéré la maison, alors il y a de l'humidité dans tous les coins? Est-ce que... Et ainsi de suite. Je ne suis pas propriétaire, je suis locataire. Il faudra que je rende le bail. Il faudra que je rende des comptes. Et peut-être la garantie que j'ai déposée, je ne la reverrai jamais. Parce que tout sera dégradé. Non, mes frères, mes sœurs, on a une responsabilité. Et Dieu nous associe. Et j'aimerais qu'on puisse terminer ce temps peut-être en lui rendant grâce pour tout ce qu'il fait pour nous, même si vous êtes dans la difficulté, dans l'épreuve, dans le deuil, comme pour cette famille pour laquelle on a prié. On veut quand même croire que Dieu tient tout entre ses mains et qu'il va secourir tout un chacun. Et on veut, enfin moi, je veux vraiment le remercier pour tout ce qu'il fait pour moi. Et je vous invite peut-être à élever la voix. Je ne sais pas si vous avez...